Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous serons en duplex avec, pour commencer, Isabelle Bigot au téléphone, qui est responsable du pôle communication et animation du CITRAD à Valence. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, au studio, nous avons Philippe Méjean, qui est, lui, responsable du pôle environnement et patrimoine de la communauté de communes du Diwa. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tous deux, vous êtes ici pour nous parler et présenter des journées portes ouvertes du CITRAD, qui auront lieu sur plusieurs dates, du 18 au 25 novembre 2017. Isabelle, par exemple, peut nous présenter ces journées.
Du coup, je voulais juste... expliquer, mais très brièvement, le parcours des déchets pour vous expliquer pourquoi on fait ces journées portes ouvertes. En fait, que ce soit le tri des déchets recyclables ou les ordures ménagères, tout part, la source, c'est l'habitant. C'est le geste de l'habitant qui va définir si le déchet recyclable va pouvoir être recyclé en fonction du bac dans lequel il va mettre. Donc voilà, le premier maillon de la chaîne, c'est l'habitant avec son geste indispensable. Après, donc, il y a les collectivités, dont représente Philippe Méjean à la communauté de communes du Diwa, qui vont s'occuper de collecter tous ces déchets. Et puis intervient après le CITRAD avec des centres de traitement des déchets. Donc que ce soit le centre de tri qui va s'occuper des collectes sélectives, que vous pouvez donc venir visiter le 18 novembre, ou les centres de valorisation qui vont donc valoriser la poubelle d'ordures ménagères. Et après, le dernier acteur, c'est les filières de recyclage.
Ces portes ouvertes seront la possibilité pour les personnes intéressées d'aller visiter ces centres de traitement, donc.
C'est ça. Donc, le premier samedi, le 18 novembre, c'est le centre de tri. Donc là, c'est un centre qui va réceptionner tous les matériaux recyclables, les bouteilles plastiques, le papier carton, les emballages en acier. Donc, les emballages recyclables arrivent dans ce centre de tri de tout le territoire du CITRAD. Et puis après, donc, ils sont... séparés avec des machines et des êtres humains qui vont donc séparer pour que ça aille dans les bonnes filières de recyclage. Et donc, en parallèle, il y a les centres de valorisation de la poubelle des ordures ménagères. Donc, en fait, nous avons trois sites sur notre territoire. Ils font la même chose, sauf qu'ils sont dimensionnés. Il y en a des plus petits et un peu plus gros, celui d'Étoile-sur-Rhône. Et là, vous verrez donc les poubelles d'ordures ménagères qui arrivent dans ce centre. Et grâce à un processus, le processus va permettre de séparer tout ce que sont les déchets biodégradables pour en faire, par exemple, du compost. Et donc ça, c'est les mercredis sur les centres de Saint-Barthélemy de Valls et Beauregard-Barré. Et le centre d'Étoile-sur-Rhône, c'est le samedi 25 novembre.
Philippe Méjean, vous êtes aussi représentant de la communauté de communes et vous êtes en rapport avec le CITRAD pour justement la destination des déchets et des ordures ménagères du Diwa.
Oui, notre travail c'est d'aider le citoyen et les entreprises, puisque nous collectons aussi en partie des déchets des entreprises, à faire le geste de tri du mieux possible. Donc la principale évolution qui a eu lieu il y a 2 ans, c'est d'offrir le tri sur tous les points d'apport des ordures ménagères. Et cette évolution qui s'est faite avec l'arrivée de gros conteneurs pour mettre les ordures ménagères, avec la systématisation à côté de 3 conteneurs pour le verre, le papier et les emballages autres, plastique et métallique, ou briques également polycomposites, briques de lait par exemple, a permis d'augmenter mécaniquement le tri des Diwa, qui était déjà correct, mais on a doublé, par exemple, ce que les Diwa apportent dans la poubelle jaune, les emballages. On a augmenté de plus de 25% ce qu'ils apportent dans la poubelle bleue, le papier, et on a continué à augmenter ce qu'ils apportent dans la poubelle verte, le verre, de 4 ou 5%, alors que les chiffres étaient déjà très importants. Le verre est trié, par exemple, en 2016, il a été trié à plus de 87% du potentiel. Donc ça, on le mesure en allant voir ce qui reste dans la poubelle grise et qui ne devrait pas y être. Et on s'aperçoit qu'il en reste relativement peu. En moyenne, il en reste 20%. Hein, quand on fait la moyenne de ces trois ensembles, poubelle verte, jaune et bleue, il reste encore 20% de ce qui pourrait aller dans ces poubelles qui sont jetées dans la poubelle grise. Donc ce score est très important, mais on peut mieux faire. Voilà.
Alors, en parlant de chacune de types de bennes qui sont proposées, donc les ordures ménagères, est-ce qu'on peut rapidement décrire le cheminement de cette catégorie de déchets?
Alors, on va décrire le cheminement. Avant tout, je rappelle que c'est celle qui coûte le plus cher. C'est-à-dire que une tonne d'ordures ménagères, c'est 300 euros. Donc, chaque kilo jeté, c'est 30 centimes d'euros pour le contribuable en général. Et c'est pour ça qu'on incite à aller vers le tri, qui coûte au moins deux fois moins cher. Et encore plus pour certains tris. Le parcours, c'est que le camion va venir avec un chauffeur qui est un chauffeur grutier désormais, qui est seul dans son camion, qui va lever le conteneur dans lequel vous avez mis vos ordures ménagères, qui va par un système semi-automatique d'ailleurs, qui nous fait gagner beaucoup de temps, verser ce conteneur dans son camion. Camion qui compacte et qui, en général, va verser dans un compacteur un peu plus puissant que nous avons à 10. Et ensuite, des caissons d'ordures ménagères d'une dizaine de tonnes chacun environ sont envoyés par paire au centre de valorisation d'Étoile-sur-Rhône. Voilà. De temps en temps, le camion peut descendre directement à Valence. Ça, c'est pour les ordures ménagères. Pour le tri, pour le papier et pour les emballages, depuis cet été, nous systématisons la collecte dans un camion compacteur, ce qui n'était pas le cas avant. C'était simplement un camion à grue qui mettait dans une benne, des fois une benne coupée en deux, avec d'un côté les corps creux, de l'autre côté les corps plats. Les gens croyaient par moments qu'on remélangeait tout, mais c'était des bennes à compartiments. Et là, c'est mis dans un camion, donc évidemment, les corps creux avec les corps creux, les papiers avec les papiers, qui compacte, qui nous fait gagner à la fois du temps et des trajets, et qui amène tous ces matériaux compactés directement au centre de tri de Porte-les-Valences. Pour le verre, c'est un prestataire qui nous fait la prestation, voilà, qui collecte dans des bennes ouvertes, pour le coup, avec une grue également. Et les déchets sont emmenés pour être retraités directement donc en Ardèche, à côté de Vals-les-Bains. Peut-être qu'il faut préciser que, Isabelle, tu me reprendras si ce n'est pas juste, hein, qu'on est en recherche de manière générale au niveau des collectivités, que ce soit les Interco et le Citrad pour notre compte, de filières les plus courtes possibles pour le réemploi de nos déchets. Donc dans les emballages ménagers, par exemple, une bonne partie des bouteilles plastiques sont également retraitées dans la Drôme. Les papiers, les cartons plus exactement, les cartons que vous amenez en déchetterie ou qu'on retrie de la poubelle papier, sont traités chez Emma Lédier dans le Nord-Drôme. Voilà.
Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, les cartons, c'est chez Emma Lédier. Et puis donc les bouteilles plastiques claires vont chez Refresco, Délifruits, qui est à Margès, en fait, qui récupère effectivement ce plastique pour en faire des nouvelles bouteilles.
Voilà. Donc tout ce qui est trié part à la revalorisation. Parce qu'il y a des croyances, hein, des fois, des bruits qui circulent, mais la réalité, c'est que chaque geste de tri a des conséquences qui sont très intéressantes, à la fois sur le coût de la poubelle générale, hein, pour le contribuable, et à la fois pour la revalorisation en matière, donc pour l'environnement. Donc ça, c'est important de le noter. Plus ce geste de tri est bien fait, donc moins vous laissez de saleté sur vos emballages, laissez pas la pizza dans son carton par exemple, laissez pas vos bouteilles pleines, parce que tout ça, ça se retrouve sur un centre de tri où il y a du personnel qui travaille, et plus il y a d'odeur, moins c'est confortable évidemment.
Du coup, moi je voudrais juste inciter les personnes à consulter notre site internet. Parce que c'est vraiment une demande, notre retour, c'est que l'habitant a besoin de connaître un petit peu le parcours général du déchet pour resituer son geste dans la chaîne. Et du coup, sur notre site internet, on a créé une application qui permet, en fait, en scrollant avec la souris, de voir que le papier va être déposé dans le conteneur qui va arriver au centre de tri, il va être valorisé sous cette forme. Et on a également en parallèle un film qui dure une quinzaine de minutes, mais qui passe assez vite, qui retrace voilà, vraiment toute la chaîne. C'est un peu spécifique à la collecte sélective, mais qui retrace toute la chaîne du geste de tri jusqu'au recyclage. Et ça permet voilà, d'éclairer pas mal de personnes.
Philippe Méjean, depuis peu existe un partenariat avec une association qui s'appelle la Matériothèque avec la CCD. Est-ce que c'est une politique nouvelle justement de pouvoir recycler, dans le Diois du moins, des encombrants ou voire du matériau?
Alors c'est une pratique ancienne parce qu'il y a déjà sur le territoire des associations qui travaillent dans le domaine du réemploi. On peut penser à l'association Trésor, qui appartient à l'association elle-même, enfin qui est au chantier Trésor, qui est de l'association R Archer, donc qui réemploie tout type de matériaux, des objets, de la vaisselle, des meubles, etc.
On parle de déchetterie, hein, vraiment.
Mais tout ce qui va là-bas pourrait arriver en déchetterie. Et une bonne part de ce qui arrive aujourd'hui en déchetterie peut aller en récupération. Quand on fait un peu le bilan de ce qui arrive, moi j'aime bien citer cet exemple, ce qui arrive sur la déchetterie de Die, par exemple, on est à peu près sûr, tous les jours, de pouvoir équiper un ménage de 4 personnes complètement, une maison entière, avec tout le nécessaire, en récupérant des objets qui arrivent à la déchetterie de Die. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'objets qui partent aux déchets et qui pourraient être réemployés. Donc ça, c'est connu. Une grande partie est déjà réemployée par les associations existantes. Je vous parlais d'Herm, il y a toutes les associations qui œuvrent dans le domaine du textile, que ce soit Herm, mais aussi la Croix-Rouge, le Secours Populaire, la Bonneterie, et voilà. Donc il y a des associations qui œuvrent dans ce domaine, et nous n'avions rien jusque-là sur les matériaux. Et effectivement, la matériothèque Bissusus, qui est en train de se créer, qui a ouvert ses portes ce mois de début novembre ou fin octobre sur Die, permettra de réemployer plus d'objets. Et nous travaillons avec eux et avec R et avec d'autres pour augmenter le réemploi. Donc ça, c'est un souhait des élus, d'augmenter le réemploi et de créer par ce biais une activité locale plutôt que d'envoyer ces déchets pour du retraitement ailleurs, dans le département ou en France.
Ça, on pourrait dire que c'est un circuit court de la revalorisation du déchet, hein, c'est ça?
C'est ça.
Et pour ce qui est du verre, l'investissement pour le traitement du verre est tellement énorme que ça se passe en Ardèche, finalement, pour le traitement du verre.
De manière générale, moi, les installations sont des installations industrielles assez lourdes pour le retraitement des déchets. Hein. Le verre est en Ardèche, mais le papier, je vous dis, le carton est en Drôme, mais le papier, c'est recyclé aujourd'hui dans les Vosges. Et en France, il n'y a pas énormément de papeteries qui recyclent le papier comme ça. Donc, c'est pas si loin que ça par rapport au marché du recyclage d'aller dans les Vosges. Surtout que ça y va par train, pour le coup, hein, à partir du Citrade. Donc, ce sont des grosses installations industrielles. Par contre, ce qui est en train de se réinventer de plus en plus à l'échelle nationale, ce sont des systèmes de consignes. Et je sais qu'il y a un projet, porté notamment par une entreprise en émergence au sein du groupe Archer, de consignes de verre à l'échelle départementale, à l'image de ce qui a déjà été fait dans le Jura, par exemple. Et donc, ça, ce sont des projets qui reviennent petit à petit, mais qui demandent un gros effort de conception pour trouver la bonne taille. Les marchés sont tellement segmentés, les habitudes tellement prises que c'est difficile de recréer des circuits très locaux et c'est pas toujours tenable économiquement parlant.
On va revenir sur les journées des portes ouvertes et puis peut-être entrer plus en détail avec vous, Isabelle Bigot, à commencer par le samedi 18 novembre entre 8h30 et 15h au centre de tri des Portes Les Valences. Donc quel public ça peut-il intéresser et de quelle génération vous voulez surtout informer?
Donc en fait, nous, on est vraiment sur du tout public. Toute l'année, on reçoit énormément d'écoles. On a environ 3000 enfants qui viennent visiter le centre de tri. Donc c'est un site qui est adapté aussi pour des enfants à partir de voilà 7-8 ans. Mais c'est vraiment un lieu qui peut se visiter par les adultes. On a un parcours de visite. En plus, on aura une salle où voilà il y aura des petits jeux, le jeu de... On fera trier les visiteurs pour voir un petit peu les consignes de tri. On a un système de quiz box, chacun peut avec une télécommande répondre à des questions. Voilà, donc c'est vraiment pour tout public. Ça dure à peu près une heure au niveau de la visite. Et puis après, il y aura un temps libre dans cet espace atelier. Donc vous pouvez prévoir une heure et demie.
En dehors de ces journées portes ouvertes, vous organisez aussi des visites pédagogiques pour l'éducation nationale, par exemple ?
Oui, c'est ça. En fait, on a un partenariat. On fait énormément aussi de l'animation au sein des écoles de notre territoire. Et on les invite également à visiter nos sites. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne beaucoup parce que les enfants, c'est un vecteur qui permet, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils rentrent de l'école et qu'ils ont vu ça dans le cadre scolaire, voilà, il y a un impact au niveau des foyers qui est assez important, quoi.
Je voudrais revenir sur le traitement et la revalorisation des déchets. Et je voudrais savoir, l'industrie qui se charge du verre, par exemple, comment s'en sort-elle financièrement de cette organisation ?
Je prends Isabelle la question. Donc,
oui.
Mes connaissances ne sont pas peut-être extrêmement précises là-dedans. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, recycler du verre, ça coûte moins cher que d'en produire du nouveau. Et c'est autant de silice économisé. Et on sait que, mine de rien, la silice et le sable en général, sur la planète, les ressources sont en train de s'amenuiser. Donc, et le verre est recyclable à l'infini.
Oui,
quasiment comme le papier, d'ailleurs. Hein. Le papier est réemployable. Une feuille de papier est recyclable au moins 5 fois en feuille de papier. Au bout d'un moment, à force de recyclage, les fibres et de découpage à la maison, les fibres deviennent plus courtes. Mais le papier se recycle ensuite en autre forme de papier. Ce ne sont pas des feuilles aussi solides. Ça peut aller vers du carton, ça peut aussi aller vers du papier hygiénique, par exemple, qui est lui aussi, par exemple, issu du carton qu'on récupère sur les boîtes de lait. Hein, dans la boîte de lait, vous avez à la fois du carton, à la fois de l'aluminium et peut-être un film plastique en plus, si je ne m'abuse.
C'est ça, oui.
Mais tout ça est récupéré. Voilà. Donc, dès que vous triez, bien, suivez bien les consignes, on essaie de les rendre les plus simples possibles, vous êtes sûr que c'est réemployé, et s'il y a une chaîne, c'est que ça vaut le coup. Ça vaut le coup à la fois dans le domaine du verre naturellement, parce qu'on n'a pas besoin d'aide pour que la filière de verre se mette en place automatiquement. Et sinon, c'est un mécanisme qui est organisé au niveau national pour que le recyclage soit favorisé pour tomber dans des coûts équivalents et en tout cas concurrentiels avec la production directe à partir des matières premières. Pour le plastique, par exemple, un plastique recyclé coûte a priori plus cher qu'un plastique issu directement du pétrole. Sauf que, quand vous achetez votre bouteille plastique, vous payez une taxe qui est collectée au niveau national chez le producteur d'emballage et qui est redistribuée à la fois aux collectivités pour collecter, à la fois aux producteurs d'emballage pour concevoir des emballages plus économes en matières premières, par exemple, ou plus recyclables, et à la fois aux filières de recyclage pour les aider à mettre en place des processus de plus en plus efficaces. Et donc tout ça contribue à faire que le recyclage soit avantageux, dans tous les cas, par rapport à la production à partir de matières premières extraites du sol.
Voilà. Je voulais savoir, est-ce que vous étudiez des possibilités de traitement ou de valorisation sur des chemins plus courts ou voire sur le secteur même, hein ? Est-ce qu'il y aurait des possibilités ?
Oui, nous essayons. Donc, il y a une évidence, c'est que sur le réemploi des déchets verts, des végétaux. Pour moi, le végétal ne doit pas avoir la qualification de déchet. Pour le réemploi des végétaux, c'est une évidence. C'est broyé et c'est composté le plus près possible. Voilà. Nous réfléchissons à d'autres filières plus courtes. Vous avez parlé de la ressourcerie et de la matériothèque tout à l'heure. On pourrait imaginer que sur le bois non traité, on puisse trouver une filière plus courte. On est en train de l'étudier, mais ce n'est pas toujours évident de se retrouver dans la réglementation qui demande parfois des équipements de transformation aux normes qui sont en général calibrées pour des installations importantes. Et le coût de mise aux normes peut être rédhibitoire pour des filières locales. C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, on étudie et on vous tiendra au courant à chaque fois qu'on y arrive. En déchetterie, par exemple, récemment, on a proposé des nouveaux tris. Donc c'est souvent testé à dit avant d'être étendu aux 4 autres déchetteries du territoire. Mais nous trions depuis un an déjà le polystyrène, voilà, qui est évacué juste au coût de transport. On n'a plus de coût de traitement. Nous traitons à part les portes et les fenêtres avec leurs vitres. Et a dit depuis cette semaine, nous traitons le plâtre et le placoplâtre. Donc tout ça, c'est autant de matériaux, sont autant de matériaux qui ne vont plus en décharge, qui sont réemployés.
D'ailleurs, vous avez récemment réhabilité la déchetterie de Die. Vous l'avez mis en conformité.
On a adapté le site qui n'est pas en conformité. J'espère que.
Voilà. Non, mais trop c'est écouté. Bien que vous le précisiez.
On sait qu'il n'est, voilà, donc il va être complètement réhabilité dans les prochaines années. Voilà, le chantier devrait être lancé sous une grosse année, on va dire.
Shopping world, where you can buy anything from a laxative to a ring. Shopping world, a prayer, a rhyme, a wish, a chime, a final checkout time. Oh my God, what a smell. Don't feel well. What's that bell that I'm hearing? Brain cells disappearing. It's a heaven, but it feels just like hell. And I can tell that I'm in shopping world. They put the ping back into my shop. That is why I'm gonna die with a sigh. Don't know why. Like a fly, bye, bye, bye. SWAT and out.
Isabelle, nous allons continuer toujours le mercredi 22 novembre, donc l'après-midi de 13h à 15h30. Et là, ce sera à Saint-Barthélemy de Vals.
Alors, du coup, ce centre de valorisation traite les ordures ménagères. C'est en fait, on a donc sur notre territoire trois centres qui vont traiter les ordures ménagères. C'est le centre de Saint-Barthélemy de Vals, qui est vers Saint-Vallier. Il y en a un aussi également à Beauregard-Barré, qui est un petit peu plus petit, et un centre à Étoile-sur-Rhône. Qui est plus gros parce que voilà, il y a toute la région de Valence. Donc en fait, ils ont la même fonction actuellement. Oui, c'est qu'effectivement, il a une grosse capacité parce qu'en fait, il réceptionne des tonnages de plusieurs communes. Donc ils ont la même fonction qui est de séparer les déchets qui sont contenus dans la poubelle grise. Donc, quelque part, vous verrez la même chose dans ces trois sites. Le site de Saint-Barthélemy de Vals a la particularité au niveau de la porte ouverte, c'est qu'on a un parcours pédagogique en salle. Donc, la porte ouverte sera dédiée à ce parcours pédagogique. Donc, elle est plus dédiée aux enfants avec leurs parents. Par contre, donc, je précise, juste pour que les personnes ne soient pas un petit peu déçues, il n'y aura pas de visite au niveau même du site. Ça sera que sur la passerelle parce que c'est une visite voilà, dédiée aux enfants avec leurs parents sur ce parcours pédagogique. Après, voilà, si vous voulez voir le site vraiment au sol et voir les machines, c'est plutôt sur Beauregard-Barré le mercredi soir à partir de 18h ou voilà, de 13h30 à 16h le samedi 25 novembre sur le site d'Étoile.
Voilà, je voulais savoir par rapport à la déchetterie, donc comment ça se passe ce traitement des déchets, des ordures ménagères? Il en résulte quoi de ce qui est produit dans ces usines de traitement?
Donc à Étoile par exemple, je reprends ma boutade de tout à l'heure en disant que le DIWA approvisionnait Étoile comme Valence, enfin, on apporte évidemment beaucoup moins et toute notre action vise à apporter de moins en moins. Hein, c'est, ça, c'est aussi un signe intéressant pour le DIWA, c'est que depuis 5 ans, nous avons baissé de 30% les tonnes d'ordures ménagères que nous apportons au centre de valorisation d'Étoiles sur Rhône. Ça veut dire que les gens trient de plus en plus, et c'est intéressant, ça permet de, aujourd'hui de moderniser toutes nos installations de collecte, dont les déchetteries, à fiscalité constante. Donc ça, c'est pas neutre, ce geste de tri de l'habitant. On apporte 2400 tonnes par an, quand même. Mais avant, on apportait jusqu'à 3500 tonnes par an, voire on a frôlé, dans les années 2010, de mémoire, les 3800 tonnes. Donc c'est une très très grosse diminution. À Valence, ce qu'a expliqué Isabelle, à Étoile, ce qu'a expliqué Isabelle tout à l'heure, c'est que les ordures ménagères qui sont déversées là-bas sont triées. Aujourd'hui, c'est en place depuis 2011, me semble-t-il, on extrait la matière organique pour faire du compost, qui est normé et qui est récupéré par des agriculteurs, donc qui est exempt d'un maximum de polluants, hein, qui correspond à une norme nationale. L'objectif de ces centres, c'est aussi à terme de faire du combustible de récupération, dit combustible solide de récupération, qui va alimenter des grosses chaufferies type cimenterie. Donc à terme, les matières apportées là-bas seront de plus en plus valorisées. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une petite moitié qui est enfouie encore de ce qui est apporté dans ce centre, une fois le compost effectué, Isabelle.
Ce qui est enfoui, c'est à peu près 20%.
20% d'enfouissement. Il y a 20% d'enfouissement, 30% de matière recyclée en combustible, c'est ça ?
Voilà, énergétique.
Oui. Énergétique.
27% sur le compostage.
D'accord. Donc là, oui, j'étais en retard. La valorisation énergétique est déjà en route, en fait.
Et ces 20% ne sont plus du tout, valorisables. Hein. C'est vraiment le déchet du déchet.
Enfoui.
Voilà. C'est quel type de matière qui est enfouie ?
Du coup, c'est ce qu'on appelle les déchets ultimes, ça porte bien son nom. En fait, par exemple, les gravats, ça peut être un matériau qui va être enfoui à l'heure actuelle. Moi, je voulais en parallèle confirmer en fait les propos de Philippe Méjean sur les bons résultats de la communauté de communes d'Idiwa. Le territoire du Citrade, en fait, c'est le nord-centre, à peu près, Drôme-Ardèche. Donc, on a 13 intercommunalités, ça fait 500 000 habitants à peu près. Et il est vrai, autant en profiter que je vous le dise, que la communauté de communes du Didois, que ce soit, comme disait Philippe, au niveau de la baisse du poids de la poubelle d'ordures ménagères ou pour les résultats, les bons résultats au niveau de la collecte sélective, voilà, c'est vraiment une collectivité qui porte à cœur. Je voulais vous remercier pour ce geste au niveau des
Merci.
Habitants. Et puis dire, voilà, continuer quand même.
Je voulais savoir, par rapport à la communauté de communes du Diwa, le coût du traitement de l'ordure ménagère, est-ce qu'on peut établir des chiffres en comparaison de ce que ça a permis d'économiser ?
Alors,
sur une période, par exemple.
Ces analyses sont très complexes parce qu'il y a des coûts qui vont à la hausse. De manière générale, les coûts de traitement qui sont externalisés sont à la hausse. Ça suit des prix de marché, des prix d'inflation, etc. Et on a des coûts internes qu'on maîtrise depuis longtemps, en fait, hein, puisque ça fait de mémoire 7 ans, depuis 2011, que le taux de la taxe n'a pas augmenté. Et donc l'un compense l'autre. Et il y a ensuite les investissements qui sont permis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service peut se permettre de faire des investissements pour moderniser les déchetteries et préparer plus de tri pour demain, une meilleure revalorisation locale, pourquoi pas financer la ressourcerie dont on parlait tout à l'heure, sans augmenter la pression fiscale. Parce que les économies que nous faisons en fonctionnement permettent, au lieu de payer de la prestation de transport, d'évacuation, de traitement des déchets à l'extérieur, de réinvestir sur le territoire des équipements pour récupérer, mieux trier des déchets en proximité, donc avec des emplois locaux qui sont soit consolidés dans le service, parce qu'il y a une hausse de technicité des agents à la fois sur la collecte et sur les déchetteries, ou pour la mise en place à venir du compost, par exemple. Hein, le compost individuel, on connaît, mais le compost collectif est amené à se développer selon la loi et la volonté des élus locaux aussi. Donc tout ça, ce sont des emplois concrets à coût constant, en fait. Si vous voulez connaître le budget, en termes de dépenses réelles, c'est de l'ordre d'€1,7 million, plus la dotation aux amortissements. Donc c'est un budget en gros de €2 millions, les ordures ménagères. Mais avec des jeux de montée et de descente sur les coûts. Voilà. Je vous dis, la tonne d'ordures ménagères, malgré les gros investissements qui ont été faits ces dernières années et malgré la baisse du tonnage, le coût à la tonne est resté le même. La tonne d'ordures ménagères classique, mal triée, on va dire, hein, il restait à €300 la tonne. Voilà. Ce qui est un coût constant depuis quelques années. Alors que nous, on a beaucoup investi sur du matériel de collecte et qu'on a fait baisser les tonnages et que les charges externes ont augmenté. Donc ça veut dire qu'on a maîtrisé, nous, nos coûts de fonctionnement dans le même temps. C'est un effort quotidien.
Isabelle Bigot, on parlait tout à l'heure des contraintes pour les usines de retraitement ou de revalorisation de certains matériaux, ou du verre par exemple. Est-ce que ces contraintes, elles sont dues au développement justement du recyclage, ou alors il y a aussi une part qui est liée à l'environnement ? Par rapport aux usines qui traitent et qui valorisent les déchets,
oui.
Je posais la question tout à l'heure si localement ce type d'activité pouvait être implanté sur des circuits courts, hein, mais dont les contraintes sont plutôt financières, je crois.
En fait, comme disait tout à fait Philippe tout à l'heure, au niveau des usines en fait qui vont recycler tout ce qui est collecte sélective. Philippe l'expliquait très bien tout à l'heure, ce sont des grosses usines. Et en fait, le fait que les journaux, magazines, par exemple, partent dans les Vosges, ça reste en France. Et c'est vraiment, pour nous, un circuit court. Et en parallèle, effectivement, le carton qui va chez Mainlédier, on a l'acier aussi qui part sur Port-les-Valences. Donc c'est vraiment à côté. Les bouteilles plastiques qui vont à Margès, dans la Drôme. Voilà, c'est vraiment pour nous des circuits courts qui permettent d'être dans la logique de l'économie circulaire.
Il existait un circuit court, d'ailleurs à Romans-sur-Isère, je crois qu'il proposait des stages de meubles en carton. Cette activité, elle est liée justement au recyclage et à la récupération de carton, qui n'est hélas plus trop possible d'Andy, à moins d'aller... est-ce que c'est possible d'aller à la déchetterie de Die récupérer du carton ?
Non, il est interdit, par la loi d'ailleurs, hein, et pour des raisons de sécurité évidentes, d'aller récupérer des éléments qui sont jetés dans des bennes en déchetterie. Une fois que l'usager a choisi de se débarrasser d'objets et que ces objets ont pris le statut de déchet, ils ont à suivre un circuit qui est normé de A à Z parce qu'ils sont qualifiés de déchets. Donc si vous voulez réemployer, il faut donner avant la porte de déchetterie. Et c'est un acte du propriétaire. Nous, collectivités, ne pouvons pas obliger une personne qui vient en déchetterie, par exemple, à donner à la ressourcerie, si un jour on accepte, ce qui sera peut-être le cas, hein, que la ressourcerie, la matériothèque, viennent collecter des déchets à l'entrée de la déchetterie ou à l'intérieur de la déchetterie, ce geste sera toujours un geste volontaire. On ne peut pas obliger une personne à se débarrasser de ces objets pour un tiers, sous forme de don. Pour éviter que ça rentre dans le circuit des déchets, on va tout faire pour les inciter, évidemment, mais on ne peut pas les y obliger.
Ce que je voulais mettre un petit peu en avant, c'était, je ne sais pas pour dire, mais je pense que c'est des activités qui permettent à certaines personnes d'exercer une activité professionnelle, hein, fabrication de meubles en carton, c'est en voie de développement, je crois. Mais est-ce qu'il y a d'autres circuits comme le tissu, le textile ? Est-ce que ces éléments-là qui sont en fait confisqués à certaines personnes, est-ce que vous avez pris en compte ce désagrément, par exemple ?
La part du pauvre, on pourrait l'appeler comme ça. Nous, on est obligé d'appliquer des règles. C'est-à-dire que ce qui arrive en déchets, on le traite en déchets. Par contre, on est bien d'accord pour accompagner tout ce qui peut être fait pour éviter que ça devienne des déchets. Donc, il y a déjà eu des actions mises en place en direction des entreprises. Par exemple, avec un supermarché de Die, qui a passé convention pour donner ses invendus à des associations caritatives. On a accompagné, on a incité à accompagner cette procédure. On incite les personnes, encore par un article la semaine dernière dans la presse locale, à donner leurs vêtements en bon état plutôt aux associations locales qu'à les mettre dans les bornes 24 heures sur 24 qui vont ensuite être traitées à l'extérieur du territoire. Donc tout ce qu'on peut faire pour favoriser des circuits très locaux, nous le faisons. Nous avons incité des entreprises voisines sur certaines zones d'activité à faire en sorte que les déchets des uns, des cartons par exemple, puissent devenir des ressources pour les autres. Une fois broyé, des éléments de bourrage et de calage de colis. Mais ça, ça appartient à l'initiative individuelle. Si vous souhaitez mettre vos objets usagés dans une brocante ou sur un site internet de dons ou dans une gratiféria, tant mieux, je dirais. Nous, collectivités publiques, nous n'allons pas vous obliger à faire ce geste ni vous empêcher de le faire. Voilà. Par contre, une fois que c'est arrivé dans nos installations, on ne peut pas faire autrement, pour des raisons, je répète, légales et de sécurité, que d'empêcher la récupération. Par contre, tout faire pour qu'elle se fasse en amont, oui, évidemment. Voilà.
D'ailleurs, je crois qu'il y a... Oui, Isabelle Bigot.
Non, je rebondissais également sur... quand Philippe Méjean vous parle de ressourcerie, en fait, c'est vraiment la thématique de la prévention des déchets. Là, les portes ouvertes, et je vous incite vraiment à venir nous rejoindre pour découvrir ces sites, ce sont tous les déchets qui sont partis, voilà, au niveau de la collectivité ou des ordures ménagères et qui vont être traités pour être valorisés le mieux possible. Ce qui est important, c'est, avant de commencer à faire ce circuit, c'est de faire de la prévention dès l'acte d'achat, de faire attention à ce qu'on achète, d'essayer d'acheter plutôt des produits en vrac ou peu emballés. Effectivement, comme disait Philippe, de donner au lieu de jeter ces objets, parce que ça permet vraiment de diminuer la quantité de déchets à la source. Également, on préconise de boire l'eau du robinet. Ça coûte 100 à 300 fois moins cher que l'eau en bouteille. C'est sûr que la bouteille d'eau, elle peut être recyclée si vous la mettez dans le conteneur de tri. Sauf que si vous l'utilisez pas, vous l'achetez pas au départ, c'est encore mieux. Et puis, il y a par exemple toute la thématique du gaspillage alimentaire. Un Français jette en moyenne 20 kilos de déchets par an. Dans ces 20 kilos, il y a 7 kilos d'aliments encore emballés qui sont jetés et 13 kilos de repas, de restes de repas, des fruits ou légumes abîmés, non consommés. Nous, ce qu'on préconise, c'est de déjà acheter les portions dont on a besoin, sensibiliser nos enfants qui, s'ils sont au niveau de la cantine, dans des selfs, de vraiment de dire en fonction de leur faim si ils veulent une petite quantité, une grosse quantité. Voilà, faire attention comment on gère un petit peu les aliments dans son frigo. Parfois, on peut avoir tendance, quand on arrive avec ses courses, avec des yaourts, avec des dates de péremption qui sont plus récentes, de le mettre un peu devant les autres yaourts. Et puis après, on s'aperçoit que les yaourts au fond du frigo, ils sont périmés et on les jette. Voilà, on préconise de cuisiner, par exemple, ces restes de repas. Voilà. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose de vraiment important et on a vraiment une marge de manœuvre encore sur ces 20 kilos qu'on en jette et qui ne devraient pas être jetés.
Sur le Diois, par exemple, sur nos 2400 tonnes d'ordures ménagères, la poubelle grise, il y en a encore entre 800 et 900 tonnes de déchets ménagers alimentaires qui pourraient être compostés. Alors qu'on a déjà distribué 500 composteurs, qu'on a testé une petite dizaine de composteurs collectifs. Donc il y a un énorme effort, évidemment, à faire dans ce domaine-là. Nous transportons de l'eau jusqu'à Valence, alors que ça pourrait être composté dans nos jardins. Donc c'est une forme d'aberration. Et je voulais, donc c'est ce qu'a dit Isabelle est très important. On pourrait rajouter les couches, par exemple. Dès que vous avez des couches jetables dans un ménage, vous doublez quasiment votre poubelle de déchets ménagers du jour au lendemain. Alors que des couches lavables sont une alternative qui est plus économique. Ça a été montré par de nombreuses études. Voilà. Donc, chacun doit pouvoir faire des gestes pour éviter de produire un déchet alors qu'on pourrait ne pas le faire. Ne pas acheter des choses qu'on va jeter sans les utiliser et ne pas jeter alors qu'on peut donner ou transformer. Il faut se rendre compte que les actions qu'on va mener sont... C'est des petites gouttes, des petits ruisseaux qui vont faire des grosses rivières. La matériothèque dont on parlait, on va détourner peut-être... au début, 70-100 tonnes en déchetterie. Mais en déchetterie, il passe aujourd'hui 4300 tonnes sur le Diois. Donc vous voyez que c'est une proportion très limitée. Donc c'est bien la somme des petits gestes d'achat mieux raisonné, de compost bien fait, etc., qui vont limiter bien plus massivement les tonnages d'ordures ménagères qu'on aura à l'arrivée. C'est bien plus important que la ressourcerie. C'est pour ça qu'on fait un travail aussi d'offrir le bon geste de tri et d'inciter au compost. Alors on va passer la vitesse supérieure pour le compost sûrement dans l'année de 2019, mais là on a des chantiers bien plus importants que le détournement par la ressourcerie, qui a un intérêt quand même au niveau, un, symbolique, et deux, au niveau de la création d'activités, parce que c'est effectivement un endroit où on peut créer de l'emploi local avec les déchets qui sont dérivés, enfin, ou qui sont évités.
Justement, je parlais tout à l'heure de compost, puisque je crois qu'une personne a un projet d'établir quelques composts dans le Diwa. Et je crois qu'il est en discussion avec la communauté de communes du Diwa pour ça. Et je voulais savoir, quand vous parliez de dons ou de trouver des circuits courts, est-ce que ça, c'est une démarche, justement, une initiative qui peut être proposée ou qui peut être prise en compte par la communauté de communes ?
Le compostage ?
Par exemple, ou d'autres
types ? Ça l'est déjà en partenariat avec le CITRAD, puisque le CITRAD diffuse des composteurs individuels par convention avec les usagers, et la communauté des communes relaie cette initiative, donc en faisant signer les conventions et en prenant en charge la moitié du coût de mise à disposition proposé par le CITRAD. Donc le CITRAD demande 30 euros pour la mise à disposition d'un composteur, la communauté des communes prend 15 euros à sa charge, et l'usager, avec 15 euros, peut venir signer sa convention, laisse son chèque et va chercher son composteur en déchetterie. Donc ça, c'est en place depuis plusieurs années désormais, et nous avons expérimenté sur des zones collectives, habitat collectif, camping, centre de vacances, lycée, collège, désormais hôpital, du compostage en site collectif. Et ça, c'est appelé à se développer. Mais ça suppose une condition, c'est qu'on s'en occupe régulièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déployer ces solutions dans l'espace public de manière généralisée sans une animation, former des responsables de quartier qui vont suivre le compost régulièrement, pouvoir vérifier que ces responsables, s'ils déménagent, sont bien remplacés, que les remplaçants sont bien formés, alimenter ces composteurs collectifs en matériaux secs, parce que pour faire un bon compost, il y a ce qu'on jette de sa poubelle organique, qu'il faudrait mélanger pour bien faire à du broyat sec, que les gens peuvent récupérer en déchetterie d'ailleurs. Si vous faites votre compost, vous pouvez venir récupérer gratuitement du broyat sec en déchetterie. Et tout ça, avec un petit peu de remuage une fois par semaine, ça fait un compost qu'on récupère au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Mais nous, on a besoin de mettre en place ces animations de qualité pour éviter qu'un compost collectif devienne un contre-exemple. Sinon, tout le monde va jeter n'importe quoi dedans, ça va être un dépotoir autour. Donc sur un espace public, on ne peut pas laisser s'organiser des initiatives sans qu'il y ait un minimum de sécurité apporté par la collectivité publique. Sinon, on va décourager les bonnes volontés d'apporter leur compost sur ces points-là, si ça devient des dépotoirs. Donc, il faut faire très attention à comment on le développe, et c'est pour ça qu'on a ralenti un petit peu le rythme initialement prévu, en attendant d'avoir le temps et les moyens d'animation pour faire ce compostage. Je vous ai parlé de la déchetterie tout à l'heure, la priorité c'est de pouvoir la réhabiliter, parce qu'aujourd'hui il y passe une personne toutes les 3 minutes et qu'on n'est pas dans des conditions d'accueil normales sur ce site.
Une question, la dernière. Je voulais savoir quelle est l'implication des commerces dits supermarchés ou hypermarchés dans cette démarche de recyclage et de retraitement.
Pour l'instant, il y a un supermarché qui a joué le jeu sur le don d'aliments en fin de vie, en voie de péremption. On ne peut pas inciter les autres à le faire, tout simplement parce que ce seul supermarché, qui n'est pas le plus gros en plus, donne suffisamment pour à ma connaissance, pour les organisations caritatives. C'était ce qui avait été constaté au démarrage. Donc en fait, les supermarchés sur le Diwa, mais ça doit être le cas partout en France, jettent beaucoup plus d'aliments qu'il en faudrait pour les associations caritatives. Donc déjà, ça donne une idée du gaspillage avant votre frigo, sans parler du gaspillage dans votre frigo dont parlait Isabelle tout à l'heure. La plupart d'entre eux ont fait un gros effort de tri, réemploi de leur carton. Il y a la plupart des matériaux, déchets de suremballage, palettes, etc., produits dans les supermarchés, ne passent plus par le service public d'enlèvement des déchets. Ils ont trouvé des filières accompagnées par nos services, essentiellement autour de l'année 2011, où on a fait une grosse action dans ce domaine-là. Voilà.
Eh bien, voilà, l'émission se termine. J'ai des problèmes de... Oh, voilà, c'est bon. L'émission se termine et donc je vous remercie en tout cas Isabelle Bigot d'être avec nous au téléphone. Et puis
merci à vous. Juste une toute petite précision, en fait les portes ouvertes en fait c'est sur inscription. Donc pensez bien sur le site internet du SYTRAD, donc SYTRAD.fr, à vous inscrire pour pouvoir être accueilli dans les meilleures conditions.
Voilà, il y aura peut-être une exigence de tenue pour se rendre là-bas ou pas?
On vous conseille, de toute façon, après, donc vous inscrivez et vous recevez un mail avec toutes les conditions, les horaires. Et puis voilà, effectivement, on vous conseille de ne pas venir forcément en talons, aiguilles pour la visite. Mais voilà, tout sera expliqué dans le retour de mail lors de vos inscriptions.
Et puis Philippe Méjean aussi d'être présent au studio pour nous parler donc du SYTRAD. Bonne fin de soirée, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.